Chapitre 27. J'ignore ce qui a bien pu me réveiller en sursaut au beau milieu de la nuit. Tout est pourtant calme, au point que ça en devient suspect. Les flammes se sont éteintes. L'hiver en a profité pour reprendre possession des lieux en abaissant sévèrement la température. Le froid ne recroqueville pas que les plantes. Il a aussi ratatiné le sentiment de sécurité que procurait la chaleur. Seul dans cette grande maison glaciale, déserte et isolée, je ne me sens pas du tout rassurée. Les yeux grands ouverts sur les ténèbres qui m'entourent, je ne capte pas la moindre lueur. J'ai beau forcer, ma rétine n'attrape strictement rien. C'est une situation très déstabilisante. Avez-vous déjà essayé de vous forcer la rétine? Est-ce qu'une fois dans votre vie, quelqu'un vous a déjà demandé de le faire? Si ma voix intérieure la ramène avec une réplique du style « Espèce de feignasse, force-toi un peu la rétine !» je lui flanque une grande baffe. Ça y est, je dévisse. Toute cette obscurité me panique. Chez moi, je peux au moins me raccrocher à quelques appareils en veille qui me servent de repère. Là, rien. Le noir absolu. Même le silence est différent. Plus sourd, plus profond. Je ne bouge pas. Replié sur moi-même à l'extrême pour éviter qu'un monstre ou un costume de l'étage ayant pris vie ne puisse s'emparer de ce qui dépasse. Dans mon cocon de couverture, je suis comme une contorsionniste dans la valise de son numéro de cirque. Je n'ai jamais été si compacte. Le cerveau, lui, tourne à plein régime. Je gamberge. Chez certains, quand les méninges s'activent, ça donne une théorie de physique quantique ou une start-up qui cartonne à Wall Street. Chez moi, on est clairement sur un autre registre. Quand j'ai bien dormi, j'ai déjà constaté que ça me donne envie de tomber amoureuse. Par contre, des nuits comme celle-là, je sécrète des cauchemars interdits à ceux qui n'ont pas connu les horreurs d'une pénurie de shampoing au retour de la plage. Force est pourtant de constater que pour la première fois depuis ma visite chez le notaire, je n'ai fait aucun rêve. Ni bon ni mauvais, rien. Cette bâtisse est peut-être un trou noir capable d'engloutir mes songes, ou bien la porte des enfers. Avec ma chance, le verrou qui retient les âmes damnées est aussi pourri que celui des toilettes du magasin. Bingo Toto, je le savais. Je vais la payer cher, la maison gratuite. Les cadeaux qui tombent du ciel sont rarement des bénédictions. Elle m'a déjà bien bousillé, cette baraque. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me place au premier rang pour assister à l'invasion du monde par le grand démon et ses sbires. C'est certain. Ils vont débarquer. Zombies, momies, poupées décapitées et plombiers prisonniers des limbes pour avoir trop filouté sur les fournitures. Avec leurs mains crasseuses, ils vont tout cochonner la jolie peinture de Nolan. Ça me rend folle. Je pourrais les trucider un par un. Sauf que ce n'est pas la peine puisqu'ils sont déjà morts. Amandine, arrête! Tu es en train de faire de l'auto-allumage. Que vas-tu nous réserver comme grand show cette nuit? Courir dehors en sous-vêtements, en appelant au secours? Jeter tes meubles sur tes propres murs pour combattre des créatures que tu es la seule à voir? Si ça, c'est pas de l'économie circulaire! Calme-toi immédiatement, sinon tu vas faire peur au chat. Je reprends péniblement le contrôle de ma respiration. J'essaie de penser à autre chose, mais tout ce qui me vient ne fait que me précipiter à nouveau vers mes terreurs. Mention spéciale à la chemise qui s'est glissée sous la porte et qui, à mesure qu'elle s'approche du canapé, tend ses manches vers moi dans le noir pour m'étrangler. Faire taire l'imagination. M'accrocher au réel. Fermer les paupières de toutes mes forces pour ne plus être le jouet de la nuit. Je me concentre désormais sur les bruits de cette maison que je ne connais pas. Mais là non plus. Mes détecteurs ne collectent rien. J'aurais apprécié d'entendre au moins un craquement, un robinet qui goûte, n'importe quoi. Le fait que la cabane n'émette aucun son m'effraie encore davantage. Pas un souffle. Une chambre sans écho capable de dissoudre toute matérialité. Je suis aux aguets, à l'affût du premier signal qui me permettrait de m'extraire du néant dont je suis prisonnière. Mais mes sens en alerte ne reçoivent ni son ni image. Je suis dans le ventre de la bête, à moins que je ne flotte dans l'espace. Même dans mes plus atroces cauchemars, je n'avais jamais affronté cette situation, et encore moins en étant éveillée. Je tremble tellement à l'idée de quitter mon terrier que je renonce à m'aventurer jusqu'à mon téléphone abandonné quelque part dans la cuisine. Je reste perdue entre mes peurs d'enfant et mes doutes de jeune femme. Un chouette moment de vie. L'expérience est tellement perturbante que, par contraste, j'en regrette presque la nuit passée dehors avec Nolan, dont j'ignorais alors le prénom et le pronostic vital. Je lui parlais, et même s'il ne répondait pas, il était présent. Je sentais son corps, sa chaleur, mes doigts caressant ses cheveux. Je me réfugie dans la sensation éprouvée lorsque je parcourais les traits de son visage. Là, je donnerais n'importe quoi pour me cramponner à quelqu'un. Nolan serait l'idéal, mais je saurais me contenter de Florian, ou même d'un chat. N'importe quoi pour ne pas être seule. Cette dernière phrase ferait une excellente devise sur mon blason. Bien entendu, avec la tête farcie de pensées plus épouvantables les unes que les autres, je n'ai pas réussi à me rendormir. Aucune idée du nombre d'heures qu'il m'a fallu attendre avant de voir les timides lueurs du jour naissant filtrer à travers les rideaux fermés. Selon mon ressenti, je dirais 2 ans. Mon esprit s'est ensuite progressivement apaisé, si l'on peut dire. Il a fallu que je me fasse violence pour enfin oser me lever. Je me suis littéralement insultée pour m'obliger à sortir de mon bunker de couverture. J'ai d'abord risqué une main, la gauche a toujours été la plus courageuse, puis un pied, et étant donné que toutes les parties de mon corps sont liées les unes aux autres, le reste a bien été obligé de suivre, même si ça râlait un peu dans les rangs. Quitter la 4e dimension pour revenir à la réalité m'a rendue heureuse, malgré la désagréable sensation du carrelage froid sous mes pieds. J'ai commencé par fouiller les cendres du foyer à la recherche des ultimes braises. J'ai soufflé dessus en leur offrant du petit bois. Bon camarade, le feu a accepté de reprendre du service sans faire de complications. En ouvrant les rideaux, j'ai découvert les chats assis exactement à la même place que la veille. La patience dont font preuve ces délicats animaux m'impressionne, autant que l'espoir qu'ils placent en nous. Ne vous en faites plus, les filles. J'ai survécu à la chemise tueuse, je vais vous nourrir. Entr'ouvrant la porte de la terrasse pour glisser leur bol rempli à ras-bord, je sens la morsure du froid. Cette fois, pas de regard noir de la part des félins. À travers la fenêtre, je les observe. Nolan avait raison. Il existe entre elles, sinon une hiérarchie, tout au moins un ordre protocolaire. La petite noire, puis celle écaille de tortue, et enfin la dernière, tigrée. A, B et C ne se battent pas, ne se précipitent pas, comme si elles sentaient que de leur bonne entente et de leur respect mutuel dépend la qualité de vie de chacune. Si seulement certains humains pouvaient comprendre ce que ces bêtes savent d'instinct. À mesure que le jour s'affirme, je m'aperçois que la nuit a produit en moi un effet inattendu. Une sorte de grand ménage. Mon esprit, encore embrumé, semble avoir fait le vide. Disparu cette oppression permanente qui m'enserrait depuis des semaines. Je respire mieux. Mes poumons paraissent avoir retrouvé leur volume. Je regarde à la ronde et j'envisage mon environnement avec du recul. Est-ce le silence, le vide ou la terreur qui a permis cela? À moins que les composants volatiles de la peinture ne m'aient complètement shooté. Ma mère a raison. La drogue est partout. Je n'ai pas l'intention de rester seule dans la maison aujourd'hui. Je vais profiter de mon lundi pour rentrer tranquillement. Mais avant, je compte aller saluer Monsieur Forsetti. J'enfile à peu près tout ce que j'ai apporté comme vêtements. Mes bottes sont fraîches. En sortant, je découvre une nouvelle version du jardin, figée par le givre. Le temps paraît s'y être arrêté. Un voile immaculé le recouvre entièrement. Des hauts arbres jusqu'aux petites baies des houx, la fine pellicule granuleuse enveloppe tout. C'est magnifique. Une sublime photo d'art en nuances de gris. Je descends vers le canal. L'herbe est tellement gelée qu'elle craque sous mes pas. Le flot s'écoule avec trop de courant pour avoir pris en glace, mais lui aussi donne l'impression de faire gros dos dans l'ambiance polaire. Je m'aventure sur la passerelle. Parvenu sur l'autre rive, j'appelle. Monsieur Forsetti ? Aucune réponse. Je retente, plus fort. Monsieur Forsetti ? Au pied du tas de bûches coupées, j'aperçois tout à coup l'amiral Nelson. Couché, il dresse l'oreille mais n'aboie pas. Il ne se lève pas non plus. Je m'approche. Alors, mon grand, qu'as-tu fait de ton coupeur de bois ? Ce n'est que lorsque je ne suis plus qu'à quelques pas que le chien se met à remuer la queue timidement. Je m'accroupis. Pourquoi restes-tu là, en plein froid ? Où est ton complice ? Il regarde vers la maison pendant que je le caresse. Mon pauvre, tu es transi. Tu n'as pas d'abri ? Son comportement m'inquiète. Lui, d'habitude si vif et si démonstratif, ne manifeste rien. Il est anormalement calme. Je vérifie qu'il n'est pas blessé, puis je me redresse. Monsieur Forsetti ? J'avance jusqu'à la maison. Je frappe à la porte, mais personne ne répond. Nelson me rejoint en trottinant, espérant sans doute pouvoir entrer se réchauffer. Désolé, amiral, ton maître n'a pas l'air d'être là. Le chien me regarde comme s'il attendait quelque chose. Que veux-tu ? Son regard est d'une bouleversante douceur. Je ne parle pas son langage non plus, mais je le comprends. Tous ceux qui ont un cœur comprennent les chiens. Je me baisse et le caresse. Il se colle à moi en grognant de plaisir. Tu veux un câlin, c'est ça ? Je le prends dans mes bras. À l'évidence, il n'est pas habitué, mais se laisse faire. Je le serre contre moi en répandant mon souffle chaud sur son dos. J'espère que tu apprécies parce que je suis bonne pour prendre une douche et brûler mes vêtements. Berk, c'est quoi cette odeur ? J'espère au moins que tu n'as pas de puce. Il se contorsionne pour me lécher le visage. L'entendre couiner de plaisir me rassure sur son état. Le tenant toujours dans les bras, je fais le tour de la bâtisse sans trouver le moindre indice de présence. Après tout, Monsieur Forsetti est libre de vivre sa vie, et je suis bien sotte de l'imaginer restant là en permanence. C'est un travers enfantin de penser que les gens ne sont que ce que nous imaginons et qu'ils tiennent toujours la place que l'on est habitué à les voir occuper. Lorsque j'ai reposé l'amiral, il ne m'a plus lâché d'une semelle. Je suis restée le plus longtemps possible pour lui tenir compagnie. Mais l'heure tournait et je devais reprendre la route. Il m'a escortée jusqu'à la passerelle de l'écluse, au pied de laquelle il s'est sagement assis. J'étais désolée de le laisser, mais je n'avais pas le choix. « Je ne t'invite pas à la maison, je dois filer. Essaie de te trouver un coin protégé du vent. On se revoit vite. » Il n'a pas quitté son poste. À mesure que je remontais vers la maison, me retournant régulièrement pour le regarder, il ressemblait de plus en plus à une statue dans l'hiver. L'image de ce petit animal solitaire m'a hanté pendant tout mon trajet de retour. Les vivants aussi peuvent faire de bons fantômes.